RCF. Et à 6h30, le journal, c'est avec vous, Marion Torquebio. Bonjour Marion.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
Deuxième étape pour la réforme des retraites.
Après sa présentation en Conseil des ministres, la proposition de loi arrive en commission aujourd'hui. L'occasion de revenir sur certains points de la réforme avant une grande mobilisation prévue demain. Escalade de violence sur le territoire israélo-palestinien. Les dirigeants politiques et religieux ont appelé au calme ce week-end après les attaques qui ont fait plus de 17 morts jeudi, vendredi et samedi. Et des billets pour les Jeux Olympiques pour les personnes précaires, c'est ce que propose le Secours Populaire, afin d'ouvrir le sport à des personnes qui n'en ont pas les moyens.
Alors qu'une nouvelle journée de manifestation est prévue demain, la bataille des amendements démarre à l'Assemblée nationale.
L'ensemble des amendements proposés par les partis de la majorité et de l'opposition doivent être examinés à partir d'aujourd'hui par la Commission des affaires sociales. Plus de 7000 amendements au total, dont une majorité déposée par la NUPES. Et si la plupart portent sur l'article 7 qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, les députés ont aussi proposé des alternatives, Margot Emmerich.
Oui, comme les députés socialistes qui ont par exemple déposé 800 amendements concernant les métiers pénibles comme les déménageurs ou encore les travailleurs agricoles avec l'objectif de sortir 500 catégories professionnelles du dispositif. La France insoumise, elle, souhaite abaisser le nombre d'annuités de 43 à 40, revaloriser le montant des pensions de retraite au niveau du SMIC et indexer les retraites sur les salaires. D'autres amendements plus techniques seront défendus par les députés LR comme le renforcement de la négociations dans l'entreprise sur l'emploi des seniors ou encore le relèvement du plafond du quotient familial quand le MoDem, dans la majorité, veut un trimestre de plus par enfant pour les femmes et propose un bonus-malus adossé à l'index senior. Enfin, les 185 modifications du texte portées par Renaissance sont assez consensuelles, comme par exemple la possibilité pour les bénévoles réguliers des associations de cotiser pour leur retraite.
Autre piste évoquée par les députés de la majorité, la possibilité pour les enseignants de maternelle et de primaire de partir à la retraite dès qu'ils atteignent l'âge légal, sans attendre la fin de l'année scolaire. L'Assemblée a jusqu'au 17 février pour valider une version du texte et le Parlement devra ensuite se prononcer en 50 jours, soit d'ici le 26 mars à minuit.
En attendant, une nouvelle journée de manifestation se prépare pour demain.
Après la mobilisation du 19 janvier dernier, la grève devrait encore être très suivie ce 31 janvier, notamment dans les transports. Des perturbations sont à prévoir dans toute la France, notamment dans le ferroviaire, TGV, TER et RER, mais aussi dans le métro parisien et à l'aéroport d'Orly. Des précisions devraient se faire connaître dans la journée, mais le trafic devrait être fortement perturbé, notamment pour les TGV, avec seulement un train sur trois en moyenne. En pleine mobilisation contre la réforme des retraites, les Français pourraient être tentés de regarder le système de leurs voisins pour s'inspirer. Comment les Polonais, Allemands et Danois vivent leur retraite? C'est la question que se pose chaque année l'étude des retraites du groupe Mercer. En 2022, la France se positionne au milieu du classement, 22e sur les 44 pays étudiés. Le point rouge, la pérennité du système. C'est ce qui fait briller les pays en haut du classement, des pays du Nord, de l'Europe essentiellement. Yves Ménétrier, directeur conseil retraite et investissement chez Mercer France, nous explique ce qui les différencie.
La différence se fait essentiellement sur le fait que ce sont des pays, alors déjà qui n'ont pas toujours la même démographie. En Islande, la population est quand même bien plus jeune, donc ils ont un problème de transition démographique qui est moins accentué que chez nous. C'est un fait objectif qui fait que ça va moins mal forcément chez eux. Ils ont une période de retraite plus courte, puisque leur âge de départ est bien plus élevé que chez nous. Au Danemark, c'est 67 aujourd'hui, il passera à 69 d'ici une douzaine d'années. Il y a aussi un effet sur la présence de capitalisation obligatoire, puisque quelque part, on se dit que c'est un des seuls moyens d'assurer, puisque c'est des régimes qui sont préfinancés, un complément de retraite aux personnes au cas où les régimes de base ne serviraient plus assez. En Islande, il y a un taux de cotisation obligatoire pour tous les salariés qui est très élevé, puisqu'on est à 15% du salaire. Là où en France, ça n'existe pas, tout simplement.
En bas du classement européen, la Pologne, l'Italie et l'Autriche. Les Italiens sont longtemps à la retraite, ce qui crée des tensions sur le système et leur retraite diminue en fonction de l'espérance de vie.
Une brusque escalade dans le conflit israélo-palestinien.
Jeudi, un raid israélien à Jenin en Cisjordanie a coûté la vie à 9 personnes. Une des attaques les plus meurtrières d'Israël sur le sol palestinien en 20 ans. Vendredi, un Palestinien a tué 7 personnes en représailles devant une synagogue de Jérusalem. À la suite de ces attaques, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, italien, a promis une réponse forte, ce qui laisse craindre un nouvel engrenage de violence. Des événements qui ont fait réagir les hauts responsables politiques et religieux ce week-end.
Ah oui, à commencer par le pape François. Dans son Angélus de dimanche, le souverain pontife s'est dit profondément attristé par la mort d'Israéliens et Palestiniens ces derniers jours. La spirale de la mort qui grandit jour après jour éteint les rares lueurs de confiance qui existent entre les deux peuples, a-t-il déploré lors de sa prière dominicale. Le pape François a ensuite exhorté les dirigeants et la communauté internationale à s'engager pour le dialogue en faveur de la paix. Des réactions politiques en France également. Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec Benjamin Netanyahou pour lui présenter ses condoléances après l'attaque de vendredi devant une synagogue. Le président français lui a rappelé la nécessité d'éviter des mesures susceptibles d'alimenter l'engrenage de la violence et a exprimé sa disponibilité à contribuer à la reprise du dialogue entre les deux peuples. D'autres réactions se sont fait entendre à l'international, comme par exemple en Russie. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, s'est également entretenu avec les dirigeants israéliens et palestiniens ce week-end. Le responsable russe les a appelés à la responsabilité maximale pour éviter toute nouvelle dégradation de la situation.
Merci Florian Perret. Et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu à Jérusalem et Ramallah aujourd'hui et demain pour évoquer des mesures en vue d'une désescalade.
La France s'est inclinée hier face au Danemark.
L'équipe de France de handball n'a pas su venir à bout de leur meilleur ennemi danois en finale de la Coupe du Monde de handball. Malgré un début de première mi-temps compliqué, les Bleus étaient revenus à égalité en début de seconde période avant de se laisser dépasser par l'agressivité des Danois. Une défaite 34-29 qui prive la France d'une 7e couronne mondiale. En football, c'est aujourd'hui la remise de l'audit de la Fédération française. Ce rapport commandé par le ministère des Sports sur la gestion de la Fédération va être transmis aux principaux concernés. Et parmi eux, Noël Le Graët, le président de la FFF, qui risque d'être une des cibles de cet audit. Mis en retrait depuis le 11 janvier, Noël Le Graët est accusé d'harcèlement sexuel et de mauvaise gestion interne de la Fédération. Les résultats de ce rapport pourraient précipiter le départ de son président dans les prochaines semaines. Toujours en sport, des billets pour les Jeux Olympiques pour les personnes précaires. Pour chaque billet des JO 2024 acheté, il y aura la possibilité de faire un don de 2 euros à destination du Secours Populaire. Ces dons permettront aux personnes en situation de précarité, notamment aux jeunes, de pouvoir assister à ces événements sportifs. Les premiers billets pour les Jeux Olympiques de Paris seront vendus le 15 février à des personnes tirées au sort. Puis à partir de mai 2023, ce sont 10 millions de billets qui seront disponibles pour un public venu du monde entier, ce qui offre un potentiel de dons assez important. Pour le Secours Populaire, ces dons sont l'occasion de continuer ce que propose tout au long de l'année l'association, avec des sorties sportives et culturelles pour les personnes en situation de précarité. Thierry Robert, secrétaire national au Secours Populaire, explique l'importance de cette opération, notamment pour la jeunesse.
Quand on n'a pas les moyens, les premières choses que l'on retire de son budget, c'est l'accès au sport, à la culture, tous les loisirs, parce que c'est comme ça que les budgets commencent à se rogner. À ce moment-là, le Secours Populaire est présent pour donner ce petit plus qui permet à ce que les enfants et les jeunes vivent comme tous leurs petits copains. Ce sera pour ces enfants, ces jeunes, des souvenirs marqués à vie. La France n'est pas prête d'accueillir à nouveau les JO et c'est un souvenir qu'ils vont avoir pour toute leur vie et c'est aussi un semeur d'espoir pour leur avenir, parce que c'est aussi quelque part pour ceux qui en bénéficieront, quelque chose qui va les booster et qui va leur donner l'envie de poursuivre, l'envie peut-être même de faire du sport dans les disciplines qu'ils auront rencontrées à l'occasion de ces Jeux. On sait très bien par expérience que c'est émancipateur, que ça donne de l'espoir, ça donne de la vie, ça donne du vivre ensemble. Et c'est bon aussi pour construire un monde plus juste et plus solidaire.
Des propos recueillis par Antonin D'Agostino.
Après la journée des solitudes célébrée la semaine dernière, des chiffres alarmants présentés par les petits frères des pauvres.
L'association fait un constat inquiétant qui concerne le nombre de personnes retrouvées mortes seules chez elles des semaines, des mois, voire des années après leur décès. Pour Yann Lanier, délégué général des petits frères des pauvres, le bilan de l'année 2023 sera encore plus alarmant.
Nous avons recensé 14 personnes entre 62 pour la plus jeune, 93 ans pour la plus âgée. 14 personnes qui ont été retrouvées plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs années après leur décès. C'est un bilan particulièrement dramatique. Visiblement, ces chiffres sortent pour la première fois. On ne prétend pas du tout que le bilan que nous avons fait en 2022 est exhaustif. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que depuis le début de l'année 2023, beaucoup de faits de ces drames de la solitude sont rattachés justement à notre bilan de 2022. Donc je pense que malheureusement, 2023 va nous faire connaître beaucoup plus de personnes que ceux que nous avons comptabilisés en 2022. Et je pense surtout que ça dit quelque chose du lien social dans notre pays.
Et les petits frères des pauvres ne font pas seulement des constats, ils invitent notamment les pouvoirs publics à agir. Découvrez leurs propositions dans le dossier de la rédaction avec Zoé Butel à 7h15.